Salut à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel Œil. J'avais envie de partager quelques prises de recul à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain. Un monde où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. Alors je pars à la rencontre de personnalités et de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. Ces personnes qui, de près ou de loin, ont rêvé, ont osé, ont expérimenté et qui ont de jolis messages à nous transmettre pour nous aider à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Parce que tous, on a besoin de conseils, d'inspiration et de vagues d'espoir auxquelles se raccrocher. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser.
Bah, j'ai toujours été mais convaincu d'une chose, c'est que la vie est beaucoup trop courte pour rater une expérience et pour se fâcher avec quelqu'un durablement. Qu'est-ce qui vaut la peine de rater un instant de vie avec quelqu'un ? L'enjeu, parce que la vie est courte encore une fois, c'est très rapidement se donner le droit d'aller explorer des univers qu'on ne connaît pas en se mettant à la recherche de ses talents. La meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est toujours d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Je vais être celui ou celle qui va être un créateur d'inattendus positifs pour les autres. Grâce à moi, il y a deux personnes qui ne se seraient jamais rencontrées qui vont se rencontrer. Je crée des espèces de graines de réciprocité.
Cet épisode fait suite à celui publié la semaine dernière. Philippe Gabillier nous parle ici de comment trouver ce pourquoi on est fait, de philosophie, de son rapport au monde, aux autres et à la vie. Il nous plonge dans ses journées, dans ses habitudes et dans son quotidien pour nous aider à emprunter son œil d'optimiste. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, je t'invite à déposer un petit avis et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin, en parler autour de toi, c'est contribuer à diffuser ces ondes d'optimisme pour qu'ensemble, on ose réveiller un monde endormi par les écrans. Tu peux aussi retrouver Nouvel Œil sur Instagram et sur www.nouveloeil-podcast.com. Sans plus attendre, je te laisse avec la deuxième partie de ma conversation avec Philippe Gabillier.
Un homme ou une femme optimiste, c'est quelqu'un qui fait le pari d'abord de la confiance dans l'issue positive de ce qu'il est en train de vivre. Un optimiste va te dire, voilà, je préfère parier que ça va bien évoluer. Mais le vrai optimiste, il n'y a pas que ça. Parce que si c'était que ça, danger. L'optimisme, c'est à la fois un pari dans l'issue positive et un pari dans la confiance que j'ai en moi, c'est-à-dire dans ma capacité à faire ce qu'il faudra dans cette situation-là. Donc c'est vraiment un mode de comportement, si tu veux, où on va mettre la réalité, on apprend à mettre la réalité sous tension d'espoir, tu vois. Donc c'est pas se dire ça va bien. L'optimiste, simplement, quoi qu'il vive, même si c'est parfois des choses très dures, comme en maintenant, il se dit, bon, est-ce que ça veut dire que, de toute façon, ça va durer tout le temps, c'est bouclé? Et deuxième question, de toute façon, quoi qu'il m'arrive en ce moment, même si je m'en passerai bien, qu'est-ce que je vais bien pouvoir essayer d'en faire? C'est ça, dans le fond, l'optimisme. C'est le mot même le dit en français, tu vois. L'optimisme, c'est un processus d'optimisation positive de la réalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas regarder les choses négatives. Hein. Ça veut dire simplement que on peut être lucide sur les choses négatives sans pour autant s'attarder dessus plus que de raison. Simplement parce que le pessimisme ne donne pas d'énergie. C'est difficile de créer du désir, de créer de l'envie, de créer de la joie. Hein. Or, je dirais, qu'est-ce qui est important quand même? Si on veut faire des choses, on n'est pas toujours sûr de faire des choses de sa vie, mais faire des choses sans désir, sans joie, sans envie, c'est compliqué. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est un choix, mais je pense que c'est vrai que je suis convaincu, moi, qu'il n'y a pas d'alternative, en ce sens que si on pense pas que l'optimisme, ça peut créer de l'énergie autour de soi, ben il y a qu'à essayer le pessimisme et puis on a vite compris, quoi. Voilà.
Alors au quotidien, tu essaies de rapprocher les gens de ce pourquoi ils sont faits. Comment on trouve chacun, individuellement, ce fameux pourquoi on est fait?
Ben, je pense qu'il y a il y a un processus de double écoute. Il faut commencer par écouter les autres. Mais pour ça, pour pouvoir écouter les autres, faut leur laisser un espace de parole aussi, hein. Mais par exemple, que me renvoient les autres? Est-ce que, quand je creuse dans ma mémoire, je retrouve des trucs, ah, toi, t'es vraiment bon là-dedans, toi, tu serais doué pour, ah, toi, tu ferais vraiment un super, hein. Ou au contraire, le contraire, ah, vraiment, t'es nulant, vraiment, mais pourquoi est-ce que... Donc, est-ce que, déjà, mes amis, mes proches, mes parents, mes grands-parents, mon frère, ma sœur, mes m'ont renvoyé des feedbacks? Bon, déjà. Donc, est-ce que, je dirais, mes talents ont déjà été construits en partie, même si c'est une croyance de leur part, hein. Bon. Et ensuite, la deuxième écoute, c'est l'écoute de soi. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. C'est de quoi, dans le fond, j'ai vraiment envie. Avec, en même temps, parce que je pense que c'est des barrières qui sont importantes, je pense qu'il est encore plus important de savoir ce qu'on veut pas. Et ça, je ne veux pas avoir ce genre de vie. Je ne veux pas faire un job dans lequel il m'arriverait ça, ça, ça et ça. Mais quand je dis je veux pas, c'est exclu. Après, il y a des choses que j'aime pas beaucoup. Et s'il faut en passer par là, je suis prêt pendant un certain temps. Mais il y a des choses, c'est niet, hein. Il faut être très clair sur ces interdits. Il y a même pas d'ailleurs à les légitimer, hein. C'est un débat entre toi et toi. Mais ça, moi, je peux pas. Je peux pas. Il y a pas de jugement à avoir. C'est non. Après, il y a la partie qui est négociable. Et puis, il y a vraiment ce que j'aurais envie de faire. Tu vois. Moi, je prends un exemple. Se mettre à l'écoute de soi, c'est aussi être créatif. C'est-à-dire que il y a plusieurs voies pour atteindre sa vocation. Je vais te donner un exemple rapide. Je t'ai dit tout à l'heure, quand j'étais petit, je voulais être médecin, et si possible chirurgien. J'étais nul en maths, donc pour moi, en France en tout cas, c'était c'était interdit, c'était impossible. Bon. Après, moi, j'aurais tellement voulu faire du théâtre, mais c'était mon rêve, hein. Le théâtre, c'était bon. Donc, bien sûr, je suis allé beaucoup au théâtre, mais le théâtre, c'était pas possible. En revanche, quand je vois ce que j'ai fait derrière, tu sais, je suis devenu prof dans une grande école. C'est pas un hasard si moi, ce que j'aime, c'est les amphithéâtres, hein. Je préfère les amphithéâtres aux travaux dirigés. Moi, j'aime bien les grandes salles. Puis, je suis devenu conférencier. J'en ai fait mon métier. J'ai gagné ma vie. Je continue à gagner ma vie en faisant des conférences dans les palais des congrès, en donnant envie, en remettant en énergie, bon, voilà, en redonnant confiance. Donc, de toute façon, bon, bien sûr, je serai jamais médecin. Et je sais pas si je pense pas. Aussi, qui sait, je pourrais peut-être faire du théâtre quand je serai à la retraite. Mais peu importe. En tout cas, le désir qu'il y avait derrière le fait de vouloir être médecin, de vouloir faire du théâtre, je le réalise totalement aujourd'hui à travers ce que je fais. J'adorais quand j'étais petit. Je t'en ai parlé. Moi, j'ai passé ma vie dans la bibliothèque. Eh ben moi, je continue à beaucoup lire, beaucoup. Et c'était un grand plaisir. Hein, en revanche, il y a des choses, je dirais, qui m'intéressent pas, mais il faut l'assumer, tu vois. Par exemple, moi, le sport, ça m'a jamais intéressé. Ben, j'aime les gens qui font du sport, je trouve ça génial, hein. Mais moi, j'y peux rien, ça m'intéresse pas. Alors, donc, les injonctions sociales du genre, il faut faire du sport, etc. Je dis, écoutez, ouais, moi, pourquoi pas? Enfin, moi, personnellement, je fume pas, j'ai pas de voiture, je marche à pied. Bon, voilà, ça va, quoi, hein, tout va bien. Je me sens pas obligé de faire du sport. Je pense être quelqu'un de cultivé, mais, un exemple, je suis dans une famille, mais moi j'ai trois femmes à la maison, hein, mon épouse et mes deux filles, tout ce beau monde adore l'art, les musées, etc. Ben moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'assume, moi les musées, ça m'ennuie, ça m'intéresse pas. Les bibliothèques, oui, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le théâtre. C'est vrai que les arts plastiques, la peinture, la sculpture, ça me fait pas vibrer. Alors que, tu vois, un concerto pour violon de Sibelius, je pleure. Bon, voilà. Je revois Cyrano de Bergerac avec Depardieu sur le DVD, je suis totalement bouleversé parce que par le texte, par tout ça. Donc il faut aussi assumer les endroits où on aime, où on a du plaisir, et malgré les injonctions sociales, dire bah, attendez, vous êtes gentil, on peut pas tout savoir, on peut pas tout aimer. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup ça, ça, ça et ça, et puis il y a ça, ça, ça et ça. Je dirais ça me dit rien, et puis j'assume. Voilà. C'est pas pour ça que je suis un béotien.
On arrive aux petites questions philosophiques. En plus, je sais que tu aimes la philosophie. Mmh. Quel est le sens de la vie pour toi?
Bon, alors là, je vais être amené effectivement là à plomber l'ambiance. Au tout début, quand on m'avait demandé, je crois que c'est la revue Psychologie Magazine qui m'avait demandé de faire ça, je suis à peu près sûr. J'avais écrit un article qui s'appelait l'optimisme ou l'espérance sans Dieu. Moi, je revendique, je dirais, dans la lignée, tu vois, de que ce soit de Nietzsche ou plus dans les contemporains de Clément Rosset ou André Comte-Sponville ou des gens comme ça. Moi, je fais partie des philosophes du désespoir et du tragique, clairement. C'est-à-dire que, n'étant pas croyant du tout, j'ai une intime conviction, c'est que ma vie a eu un commencement et qu'avant que je sois là, je n'étais pas là. Ça va se continuer et un jour ou l'autre, ma vie s'arrêtera et après, je ne serai plus là. Et tu vois, si je vis par exemple 90 années en pleine forme, ce qui est un petit, je peux faire beaucoup mieux, je pense. Hein. J'ai vu la petite dame de 117 ans là qui vient de vaincre le Covid. Déjà, ça me donne beaucoup d'espoir. Mais tu vois, moi j'aurais 90 années, belles années, ça serait pas mal. Mais 90 ans, ça reste 33 000 jours, quoi. Donc tu vois, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et donc moi je sais que un jour je serai plus là. Mais je sais aussi que tous les gens qui sont autour de moi et que j'aime, un jour seront plus là eux aussi, auront disparu. Et même tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai écrit, un jour sera totalement oublié. Donc, la vie, profondément, de mon point de vue, est tragique au sens philosophique du terme. Et c'est la raison pour laquelle la seule alternative, c'est la joie permanente. C'est-à-dire se réjouir de tout. Et donc, c'est en quelque sorte l'amour au sens de Spinoza. Et l'amour, c'est une des définitions que Spinoza donne de l'amour, c'est se réjouir de l'existence de. Voilà, moi, au quotidien, je me réjouis de l'existence de la nature. Je me réjouis de l'existence de l'ESCP. Je me réjouis de l'existence de ma femme, de mes enfants. Je me réjouis de l'existence de mes amis. Je me réjouis de mon existence à moi, d'ailleurs, parce que dans le fond, c'est super. Je me réjouis. Et dans pas longtemps, par exemple, je sais déjà, je vais me réjouir de la réouverture des restos et des bistrots et des boîtes. Je vais me réjouir de la réouverture des théâtres. Je le sais déjà. Je vais me réjouir de la réouverture des cinémas. Donc, de toute façon, mon avenir n'est qu'une suite aussi de moments, je dirais, où je me réjouirai et qui permettront, je l'espère, de faire passer la pilule de l'adversité. Parce que effectivement, on avance dans la vie et on perd des gens. Et puis la maladie parfois peut s'inviter à la table, etc. Mais fondamentalement, dès l'instant où la vie on la considère comme tragique, l'alternative va être vraiment la joie, d'accord. Et alors donc ça c'est un point important, non seulement d'ailleurs pour moi, pour les autres. Moi j'ai toujours été mais convaincu d'une chose, c'est que la vie est beaucoup trop courte pour rater une expérience et pour se fâcher avec quelqu'un durablement. Sauf si effectivement cette personne m'a fait du mal absolu. Bon, mais tu sais, les gens qui nous font du mal absolu, sincèrement, il y en a pas beaucoup quand même. Non, après, on s'engueule, etc. Très bien. Mais qu'est-ce qui vaut la peine, je dirais, de rater un instant de vie avec quelqu'un, d'autant plus que quelqu'un qu'on a aimé avant, et on l'aime plus après, sous prétexte qu'il nous a fait quelque chose, c'est-à-dire que je me réjouissais de son existence, de ce qu'il était ou elle était avant, et puis sous prétexte qu'il a fait quelque chose, je me réjouirais plus de son existence après. Je suis désolé, ça se discute. Je dis pas qu'on peut pas le faire, hein. Je dis que ça se discute. Voilà. Donc le sens de la vie pour moi, il est là. Et moi, mon sens à moi, ça a été, je l'ai déjà dit hein, dans d'autres endroits, mais moi je suis quelqu'un, j'ai assumé dans ma vie, dans ma tête, d'être un homme de passage. Ça c'est un point très important pour moi. C'est-à-dire moi je fais que passer dans la vie des gens, tu vois. Mes étudiants, voilà, je passe dans leur vie. J'espère que je leur laisse une trace. Quand je fais des grandes conférences, tout ça, les gens me voient pendant une heure ou deux heures. Des gens qui partagent ma vie durablement sur le long terme, il y en a très très peu. Il y en a 20, 30, 40, peut-être pas plus. Donc, moi, je fais que passer dans la vie des gens. Mais, très souvent, je les aide à passer. Je les aide à faire un passage, à prendre une décision, à sauter le pas, à etc. Ça a vraiment été mon... Je sers à ça, moi. Je sers à ça. Je sers à aider les gens à prendre des décisions. Et ça, c'est le sens que ça a pour moi. Voilà, hein, dans la société, etc. Je pense que je suis un passeur, profondément, je suis un passeur.
Je pense que d'être dans cet état d'esprit-là, de se dire que le sens de la vie, enfin la vie est tragique dans le fond, et qu'on est de passage, et que peut-être que dans deux ans, cette personne ne se souviendra plus de moi, cet événement il sera passé, personne ne s'en souviendra. D'être dans cet état d'esprit-là, ça nous pousse encore plus, finalement, à être dans l'audace. Parce qu'on se dit, si on échoue, si ça marche pas, on s'en souviendra pas.
Alors après, bien évidemment, l'audace, elle est, encore une fois, comme je t'avais dit, elle peut parfois être bridée. Parce que, voilà, on est quand même, on vit en société, on est socialisé, et on se constitue, pour peu en plus qu'on réussisse un peu dans la vie, ben on se constitue des zones de confort. Et donc c'est vrai qu'il y a deux types de zones de confort. Il y a les zones de confort dont on se réjouit, C'est-à-dire, on les assume, et ben. Et puis, il y a des zones de confort. Vraiment, on est confortable pourtant, hein. Et pourtant, ces zones de confort génèrent du doute. C'est-à-dire, c'est, tu vois, c'est comme quand tu es, tu dis, oui, mais est-ce que, oui, c'est vrai, c'est génial, mais est-ce qu'il, quand je commence à me dire, est-ce qu'il pourrait pas en être autrement? Bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose, c'est une petite graine à l'intérieur qui commence à germer vers peut-être des alternatives. Donc, on a le droit aussi de vouloir quitter les zones de confort, mais quand on veut faire ça, on oblige les autres autour de nous à sortir de la leur, et c'est là où il y a de la résistance, ce qui est logique, hein, ce qui est logique. C'est pour ça que changer de vie, c'est pas facile.
Philippe, est-ce qu'il y a une chose qu'on ne t'a pas enseignée à l'école, mais que le temps t'a appris et que tu aurais aimé réaliser plus tôt?
Écoute, alors d'abord, c'est compliqué pour moi de répondre à ça, parce que là, j'ai toujours honte quand je dis ça. Si des jeunes écoutent, ça va être l'horreur, mais je n'ai aucun souvenir, aucun, mais vraiment quand je dis aucun, de ce que j'ai pu apprendre quand j'étais à l'école. Mais quand je dis aucun, j'ai l'impression que tout ce que je sais, ou je l'ai réappris après, hein, mais moi, j'ai aucun souvenir, quoi. Pour moi, l'école, c'était un mode de fonctionnement extrêmement normé. J'avais d'ailleurs assez rapidement compris que, étant nul, par exemple, dans tout un tas de domaines, j'ai passé ma scolarité quand même à être, mais quand je dis nullissime, comme je t'ai dit, hein, en maths, en physique, en chimie, en SVT, bon, donc j'avais intérêt à être super bon ailleurs. Bon, donc je savais ce qu'il fallait pour être bon élève, mais est-ce que ça m'a vraiment marqué? Je sais pas trop. Et moi, j'ai aucun souvenir des enseignements. Par exemple, en revanche, j'ai souvenir d'enseignements bidons. Par exemple, je pense qu'il y a l'enseignement bidon, le plus bidon qu'on a essayé de me mettre en tête, et j'y ai cru un certain temps, puis après j'ai su que c'était faux, c'était que pour réussir dans la vie, il fallait travailler. Alors ça, par exemple, c'est invraisemblable. Je pense que c'est faux. C'est-à-dire que le travail, l'effort, n'a aucune valeur en tant que tel. C'est-à-dire que si t'es débile et que tu fais les choses mal et que tu travailles dessus, eh ben, tu vas devenir juste médiocre éventuellement si t'arrives à t'améliorer. Mais l'enjeu, parce que la vie est courte encore une fois, c'est très rapidement se donner le droit d'aller explorer des univers qu'on connaît pas en se mettant à la recherche de ses talents. Ça, je crois que c'est très important. Je pense que le système, un système scolaire bien fichu, et puis d'ailleurs quand on est des parents, on devrait n'avoir comme première ambition que d'aider nos enfants et tous ceux qu'on aime à découvrir leurs talents, ce pourquoi ils sont vraiment faits, quitte à prendre des risques par rapport à ça. Ça, c'est, et la deuxième chose aussi qu'on m'avait pas apprise à l'école, c'est que, comment dire, on a toujours, la meilleure, en gros, je vais te dire ça en une phrase, la meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est toujours d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Ça, c'est la notion d'échange de valeur et d'utilité. À partir du moment où je décide au quotidien, sans rien attendre en retour au départ, hein, je le fais naturellement. Je vais être celui ou celle qui va être un créateur d'inattendus positifs pour les autres. Grâce à moi, il y a deux personnes qui ne se seraient jamais rencontrées qui vont se rencontrer. Grâce à moi, il y a quelqu'un qui va recevoir un article que j'ai trouvé sur le net. Si je ne l'avais pas envoyé, il ne l'aurait pas reçu. Je me mets en situation de créer comme ça de l'inattendu, d'aider les autres à atteindre leurs objectifs, je crée des espèces de graines, tu vois, de réciprocité. Mais il y en a qui écloront, d'autres pas. Je m'en fous. Mais à force de faire ça, mécaniquement, je crée les conditions pour que un jour, tôt ou tard, quelqu'un m'appelle en me disant, tiens, je vous appelle de la part de un tel. Il m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider à. Il paraît que vous vous intéressez à ça. Ah, écoutez, c'est drôle. Je pense qu'il faudrait qu'on se rencontre pour. Et peut-être que ça marchera ou ça marchera pas. Mais il est sûr que dès l'instant où tu crées des boucles, tu vois, comme ça, de réciprocité, de dons et de contre-dons, sans rien attendre au départ, tu crées les conditions pour que ton futur soit jalonné d'inattendus, et si on est un tant soit peu optimiste, on peut espérer que la majorité d'entre eux seront plutôt des inattendus positifs et porteurs d'opportunités, quoi, plutôt que des galères.
C'est vraiment beau de voir la vie comme ça. Ça me fait beaucoup écho. Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu t'es senti le plus heureux dans ta vie, s'il y en a un en particulier?
Alors là, franchement, j'ai beau, mais il y en a tellement. Je crois pas au bonheur, tu vois. Je crois au moment de bonheur. Le bonheur en tant que tel me semble être une notion qui est philosophiquement intéressante, mais dans la vraie vie, c'est complètement passe-moi l'expression, cucu la praline. Mmh. D'abord parce que le bonheur change selon les personnes, selon les lieux, c'est d'une fragilité absolue. Moi aujourd'hui je suis très heureux, demain je perds un de mes enfants, c'est l'horreur quoi. Bon, et surtout l'idée qu'on devrait absolument être heureux a met un petit peu de côté le réel de la souffrance quoi. Et je crois que c'est Mirabeau, l'un des révolutionnaires qui avait eu cette, j'aime beaucoup cette phrase de Mirabeau qui dit j'aime beaucoup trop la vie pour ne vouloir être qu'heureux. Et c'était aussi le point de vue de Nietzsche qui dit que la vie, on prend tout, quoi. La mort fatigue, c'est je prends tout. Je prends tout et dès l'instant où j'adore les roses, si j'accepte pas les épines, bah il y aura problème, quoi. Voilà. Donc non, moi j'ai des moments de bonheur, mais j'en ai tout le temps. Les récents, ça a été là les derniers moments de bonheur. Bah écoute, c'est mes deux filles ont cherché, elles ont ramé pour trouver des jobs. Elles l'ont trouvé, mais j'ai eu un. C'est comme si c'était moi qui l'avais trouvé, quoi. J'ai trouvé, c'était le pied absolu. J'ai trouvé ça absolument génial. Par exemple, c'est les petits bonheurs du quotidien. Après, il y a des choses que j'ai réussies, j'ai été content de les réussir. Mais bon, après les réponses, si tu as cette question, seraient assez convenues. Parce que pour moi, c'est les moments de bonheur, c'est vraiment tout le temps. Et un espèce de climax, tu vois, c'est-à-dire le bonheur absolu. Je vais beaucoup réfléchir. Non, honnêtement, je vois pas. J'ai eu des moments comme ça de grande intensité. Il y en a pas un vraiment qui ressort. Peut-être parce que j'en ai trop, j'en sais pas. Mais il y en a pas un qui ressort, quoi.
Ok. Elle ressemble à quoi une journée de Philippe Gabillier?
Elle est d'une banalité absolue. J'essaie de me lever tôt parce que je suis quand même plutôt du matin. Donc j'essaie de me lever plutôt vers 6h, 6h30. Il me faut une bonne heure pour émerger et donc j'ai un rituel. J'ai besoin de rentrer en contact avec le monde par les oreilles. Donc tu vois, je suis un fan de radio et en l'occurrence, je le dis parce que c'est comme ça, de RTL. Et donc je démarre toutes mes journées avec RTL. Comme ça, j'ai mes habitudes, etc. Bon. Et ensuite, à partir de là, je dirais. Alors ça a beaucoup bougé hein, depuis un an avec tout ce qui s'est passé. Moi je bouge beaucoup quand même, je fais beaucoup de conférences, je fais des cours, je passe. Il y a vraiment des journées qui sont des journées vraiment consacrées à la transmission. Je fais cours, j'ai une conférence dans la journée, etc. Avec le confinement, ça a changé parce que avec le digital, les Zooms, les conférences Zoom, Teams et compagnie, j'ai pu en faire des fois jusqu'à 3 dans la journée. Alors là, faut savoir que c'est quand même crevant. Donc voilà, mes journées en fait, elles sont d'une grande pas d'une grande banalité et régularité, parce qu'en fait, aucune journée n'est la même, mais voilà, je me balade entre mes clients, les entreprises pour lesquelles je fais des interventions, mes étudiants, voilà, je fonctionne comme ça, en essayant de me garder un peu de temps pour un peu pour la lecture, et puis surtout, j'aime tellement, maintenant que les théâtres sont fermés, que les cinés sont fermés, tout ça, j'avoue que je consomme la fiction télé, plus la fiction d'ailleurs que les JT en continu, hein. Bien que j'aime beaucoup l'info, j'adore l'info, j'adore la politique en tant que spectacle, j'aime énormément les débats, tout ça, mais moi surtout ce qui m'a toujours passionné, c'est le romanesque, l'imaginaire. Donc moi, dès l'instant où il y a une série, bon, je suis un grand consommateur de séries, surtout en famille, parce que c'est beaucoup plus sympa. Bon, je regarde très peu de choses tout seul. Sauf les choses que mes enfants et mon épouse refusent de voir. Alors, par exemple, toutes les histoires de zombies, de machin, etc., il y a que moi qui les regarde parce que non, on veut pas voir ça, les trucs d'horreur, on veut pas. Bon, donc en fait, on regarde des tas d'autres choses. Tu vois, en ce moment, là, on est, j'ai eu droit aux Vikings, j'ai eu droit, on a fait tout Peaky Blinders. Alors j'ai juste une chose, je résiste. Mes filles veulent absolument que je me tape les X saisons de Friends, mais là, je suis pas in the mood pour regarder Friends. Mais j'aime beaucoup de cinéma, beaucoup de films, même des pièces de théâtre en fait à la télé. C'est pas pareil qu'être dans une salle, mais j'aime tellement le théâtre que même en voir quelques-unes à la télé. Allez, avec un bon verre, un bon verre à côté, c'est sympa quand même, voilà.
Est-ce qu'il y a un livre que tu recommanderais particulièrement aux jeunes qui nous écoutent?
Qu'est-ce que je pourrais donner comme livre? Là, faut que je réfléchisse un peu, en revanche, parce que en matière de lecture, si tu veux, il y a toujours le politiquement correct, le mainstream et le reste. Donc si je voulais faire le gars de 62 ans, tu vois, qui veut apporter sa sagesse aux jeunes qui m'écoutent, surtout si je pense à mes filles, je vous dirais, mais voilà, vous devez absolument relire les lettres à un jeune poète de Rilke, etc., ce qui effectivement est très 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 bien, et puis surtout, attaquez-vous à la comédie humaine de Balzac, parce que tous les romans de Balzac sont géniaux, etc., voire, pourquoi pas, si vous êtes ambitieux, les essais de Montaigne. Mais en fait, comme je n'y crois pas une seule seconde, en tout cas qu'ils iront, je vais faire quelque chose qui est beaucoup plus basique. Il y a des ouvrages récents que moi j'ai lus, et il est apparu que mes deux filles, donc qui sont sur une génération dont je t'ai dit, 21-23 ans, elles avaient adoré ça. Il y a un premier bouquin et qui manifestement, moi je l'ai vu, c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent mais alors on me demande d'être extraverti, m'imposer, etc. Alors pour tous ceux à qui on dit ça et qui en ont ras-le-bol et qui veulent assumer le fait d'être parfois voilà à l'écoute, profil bas, etc. Il faut absolument lire un livre de Suzanne Quin, donc Quin c'est C-A-I-N, hein, Suzanne Quin, qui s'appelle La force des discrets. La force des discrets, je sais qu'il y a enthousiasmé mes deux filles et elles n'ont pas l'enthousiasme facile. Et ensuite, moi, je vous conseille vraiment de lire un ou deux ouvrages d'un vieux comme moi, mais qui est un type formidable. D'ailleurs, rien que son nom, d'ailleurs, il s'appelle Michel Lejoyeux. Ça s'invente pas, Michel Lejoyeux. Il est psychiatre, c'est un type charmant. Et il y a deux ouvrages qui méritent quand même d'être lus. Un qui s'appelle Réveillez vos désirs. C'est un point de vue de psychiatre sur le réveil de nos désirs et se mettre à l'écoute de nos désirs. Et il vient de sortir un ouvrage formidable qui s'appelle Les quatre temps de la Renaissance. Les quatre temps de la Renaissance où il montre comment est-ce que, en prenant la métaphore des saisons, il nous permet de passer des moments difficiles comme ceux qu'on est en train de passer en ce moment, surtout quand on est jeune. Voilà. Donc, La force des discrets de Suzanne Quin et de Michel Lejoyeux, Les quatre temps de la Renaissance et Réveillez vos désirs. Et je pense que d'ailleurs, tous sont tout à fait disponibles sur les tablettes, etc.
Parfait, voilà. Ben, je vais mettre tout ça dans les notes du podcast. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous partager pour terminer cette interview?
Je leur dirais, prenez exemple sur... la vie étant compliquée, c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu restreint de plein de choses, mais Il y a quelques années, j'aurais donné cette phrase de Monterland que j'aimais beaucoup, mais qui est un petit peu dure, mais qui disait, dans le fond, dans la vie, il y a l'amour, il y a le travail, il y a les livres, et puis il y a rien. Mais en fait, aujourd'hui, je dirais autre chose. Je dirais que chacun d'entre nous devrait pouvoir, à la fin, dans le fond aussi, à la fois, effectivement, dire qu'il ou elle a aimé plus de choses qu'il en a détesté, et surtout avoir cette parole merveilleuse qu'on trouve à la fin des mémoires de Casanova, où il dit, quelques jours avant sa mort, il écrit dans ses mémoires, au bout du compte, rien ne pourra faire, je ne me sois pas amusé en cette vie.
C'est beau. Merci beaucoup, Philippe.
Voilà. Merci beaucoup. Merci, Victoria.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Œil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.